Du principe de propriété par Henri Baudrillard, 1858. Un podcast de l'Institut Copé, lu par Philippe Seigneur. Retrouvez nos podcasts sur l'École française d'économie politique et sa tradition sur notre site www.institutcopé.org. Copé, COPET. À bientôt. Du principe de propriété par Henri Baudrillard, 1858. Extrait des études de philosophie morale et d'économie politique, 1858. Édition numérique réalisée par Soufiane El-Kerazi, Institut Copé. Henri Baudrillard, l'un des plus fidèles disciples de Bastiat, est l'auteur d'un manuel d'économie politique, 1857, et d'un livre sur les rapports de la morale et de l'économie politique, 1860. Il montre que les leçons d'art économique qui se dégagent de la science appuient généralement pour le bien des individus et des peuples les devoirs déjà révélés et imposés par la morale naturelle et religieuse. Selon Baudrillard, la propriété n'est pas seulement utile, elle est un droit fondé sur la nature humaine elle-même. Les époques révolutionnaires qui, parmi les maux qu'elles causent, en font de grands à la science, ont pourtant à ce dernier point de vue quelques effets plus heureux. Elles forcent la société à réfléchir sur elle-même et à remonter à l'origine contestée de ses droits. Elles obligent les sciences qui s'en occupent à pousser plus avant leurs investigations. Elles leur défendent de rester superficielles ou inconséquentes. Il y a quelques années, un homme qui représentait la logique des idées bien plus encore que l'entraînement des passions révolutionnaires, jetait comme un défi qu'une révolution devait bientôt suivre cette question fameuse. Qu'est-ce que la propriété ? Ce n'était pas seulement un cri de guerre, c'était pour les sciences de l'ordre moral et politique une mise en demeure de répondre et de s'entendre entre elles et avec elles-mêmes sur ce grave sujet, ce qui n'avait pas toujours eu lieu. L'économie politique, pour son compte, malgré les enseignements trop oubliés sur ce point qu'avaient donné ses premiers fondateurs, était loin alors d'avoir, par tous ses organes accrédités, répondu à cette question fondamentale d'une façon uniforme et toujours satisfaisante. Des économistes célèbres gardaient sur elle, ou peu s'en faut, un silence qu'on pouvait mal interpréter. D'autres y répondaient faiblement. Quelques-uns aller jusqu'à reconnaître dans la propriété une usurpation primitive et toujours nécessaire qui se légitimait par ses bienfaits, manière peu sûre de défendre le droit que de commencer par le nier. C'est l'honneur de l'esprit humain sur ces questions vitales, qui touchent aux bases mêmes des institutions, de ne pas se contenter des raisons tirées de l'utile. Il lui en faut de plus relevées et de plus rigoureuses pour le satisfaire. Il lui semble même que ce n'est pas seulement la dignité de sa haute nature, mais que c'est aussi un simple calcul de prudence qui lui interdit de s'y borner trop exclusivement. Avec les raisons qui s'empruntent de l'utilité générale, on ne ferme pas suffisamment la carrière aux utopies et aux révolutions, car qui empêche que ce qui a été utile, même pendant des siècles, ne puisse cesser de l'être. C'est d'ailleurs trop souvent le caractère de l'utile de donner lieu à des interprétations très diverses, non que l'utile n'ait aussi ses lois et qu'il ne présente un élément stable sans lequel le monde serait livré au désordre, mais il faut un long temps pour le reconnaître, pour en faire une description exacte, et il ne lui est pas donné, alors même que ce travail est accompli, de rallier aisément tous les esprits et de soumettre toutes les résistances. Il en est autrement du droit. Il parle à l'homme un langage plus clair. Ses règles sont moins lentes à découvrir, la justice n'étant pas le résultat d'une expérience acquise au prix d'essais multipliés et souvent douteux, mais une intuition spontanée de la conscience, et comme une partie de cette lumière naturelle dont il a été dit qu'elle éclaire tout homme venant en ce monde. Ce n'est donc pas seulement par l'utile, quoique l'utile y joue un si grand rôle, que la propriété doit être défendue. Si quelqu'un persistait à fermer les yeux sur les inconvénients d'un pareil mode d'apologie entrepris en dehors de l'idée du juste, je me permettrai de citer l'exemple récent d'un éminent économiste que l'Europe savante regarde à juste titre comme le glorieux successeur dans son pays des Adam Smith et des Malthus. Monsieur John Stuart Mill, lorsqu'il en vient à parler de l'avenir de la propriété, Principes d'économie politique, livre 2, chapitre 1, se montre sur ce point d'une hésitation qui étonne. Le savant écrivain n'est pas bien sûr, il le déclare à plusieurs reprises, que le communisme, à l'aide de perfectionnements qu'il croit possibles, ne sera pas un jour le régime des sociétés civilisées. Une vue plus nette du droit éternel aurait épargné à M. Mill une pareille incertitude. Si après cet exemple illustre, l'économie politique ne comprenait pas tout ce qu'il y a de périlleux à se contenter des raisons prises dans l'intérêt privé et même public, quand elle pose et discute ses propres bases, si elle ne sentait pas le devoir impérieux qui s'impose à elle de se rattacher de plus près au principe de la justice, qui ne varie point selon les temps et au gré des volontés changeantes des hommes, il faudrait mal augurer du succès de ces enseignements. Car ce n'est pas seulement, comme je viens de le dire, la dignité de l'esprit humain de ne se laisser pleinement convaincre que par les principes. Telle est aussi sa nature qui n'est vivement intéressée que par eux. Si dans les enseignements qu'on lui donne sur les destinées sociales, il n'est question ni de justice, ni de droit, ni de quelque chose qui ne soit pas purement matériel, ou si ces immortels principes vers lesquels tout ce qui pense et sent ne cesse pas d'avoir les yeux levés n'y figurent pour ainsi dire qu'accessoirement et par grâce, alors, comme s'il ignorait ce qu'on veut lui dire, il se détourne et passe son chemin. L'importance qu'il y a pour l'économie politique à s'appuyer sur une théorie de la propriété très nette et très solidement assise est à mes yeux une nécessité de premier ordre. Je crois qu'il suffit, pour en demeurer convaincu, de jeter un simple coup d'œil sur ses principaux éléments, la production, l'échange, la valeur. La production suppose une appropriation préalable et l'échange ne porte que sur des objets appropriés. Ce qui n'est pas une propriété peut avoir sans doute une immense utilité, comme l'air, la lumière et l'eau, mais n'a pas de valeur proprement dite. Et à ce titre échappe aux prises de la science, comme tout ce qui est vague et indéterminé. Celui qui, après avoir traité des phénomènes économiques, se décide à peine à nommer la propriété, me paraît faire comme l'astronome qui, dans le tableau des cieux, omettrait le soleil. Ce n'est pas en effet une pure métaphore de dire que la propriété est à l'ordre économique que ce que le soleil est à notre monde. Celui qui se fait d'elle une idée juste et complète ne tarde pas à reconnaître quel est le point central autour duquel gravite tout le reste. Un tel sujet, on peut le voir, s'il a ses racines dans la philosophie du droit, touche à la législation par ses développements. On ne s'en plaindra pas, je l'espère. Les sciences sociales ne sauraient que perdre à rester isolées. Si l'analyse qui seule réussit à les constituer et à assurer leur progrès leur interdit de se confondre dans le sein d'une vague et ambitieuse unité, la synthèse leur fait un devoir d'autant plus rigoureux de s'unir entre elles par d'étroits rapports qu'elles ont de communs principes et de nombreux points de contact. Un double danger menace les sciences morales et politiques quand elles s'isolent. Un esprit d'exclusion d'abord qui les rend étroites, ombrageuses, injustes à l'égard de leurs voisines. Ensuite, par cela même qu'elles continuent à faire route à part, sans vouloir jamais se rencontrer ni se connaître, des divergences qui ne tardent pas à devenir des contradictions. La question de la propriété en est la preuve. Les philosophes, les jurisconsultes, les économistes, indépendamment des divisions qui règnent dans le camp de chacun de ces ordres de penseurs et de savants, lui assigne trois origines différentes. La liberté de la personne humaine qui s'applique aux choses et les faits siennes, le droit du premier occupant, le travail. Voilà la triple explication du principe de propriété. Et pendant bien longtemps, on a paru à peine soupçonner qu'entre ces trois explications, il y a un accord possible, et même, je le crois, facile. Aussi, qu'en est-il résulté ? C'est que des sophistes habiles, se donnant comme une récréation le spectacle des antinomies de l'esprit humain, ont mis les docteurs en opposition flagrante et ont fini par conclure de leur querelle que c'était la propriété qui avait tort. La propriété est fondée sur le droit. La propriété foncière, objet principal de ces attaques, tout en nous occupant beaucoup par l'importance et le nombre des questions économiques qu'elle soulève, n'est pas la seule qui doive nous occuper. Il y a des propriétés qui, pour ne s'être incarnées ni dans le sol, ni dans ce qu'on a coutume d'entendre par objet mobilier, sont néanmoins respectables, de même que, pour être nouvelles dans le monde, elles n'en sont pas moins légitimes. Telle est, par exemple, la propriété qui s'attache à un dessin, à une composition musicale, à un livre. Je me suis servi de cette expression « nouvelle dans le monde », qu'on ne se hâte pas de voir dans ces mots une contradiction avec l'idée que la propriété est un fait naturel et qui, en cette qualité, pourrait sembler au premier abord immobile et non susceptible d'extension. Il n'y a pas de pareil fait dans le monde. La liberté et la justice sont assurément des principes naturels, mais les applications qui en sont tirées n'en sont pas moins progressives. Immuable en son essence, le droit est perfectible dans ses formes. L'homme ne l'a pas inventé, mais il y fait des découvertes. Il en est du droit comme des vérités mathématiques qui subsistent tout entières en dehors de l'intelligence humaine qui les conçoit, mais qui ne sont connues que peu à peu. Il est sans doute loisible à chacun de contester ces vérités primordiales de droit naturel, mais eût-on l'esprit de Montaigne ou la logique de Hobbes, on ne parvient pas sérieusement à les ébranler.
Ce qu'on oppose à la démonstration du principe de propriété fondée sur le droit, c'est non seulement l'insuffisance, objection que nous aurons à apprécier, mais la divergence des explications qui en ont été présentées.
Le droit, dit-on, le véritable droit donne lieu à moins de systèmes. Mais s'il était prouvé que ces systèmes concordent entre eux beaucoup plus que ne le croient leurs auteurs et que ne le répètent leurs adversaires, si ces origines diverses pouvaient être ramenées à l'unité et n'étaient que les degrés divers d'un même principe, l'objection perdrait toute sa valeur et le droit acquerrait un nouveau degré de certitude scientifique. Or, c'est ce que je crois aisé d'établir. Qu'on veuille suivre, en effet, l'exposé rapide de ce que disent sur le droit de propriété les philosophes, les jurisconsultes, les économistes. Écoutons d'abord la philosophie moderne par l'organe d'un de ses plus illustres interprètes. L'homme, si faible et si petit matériellement en face de la nature, se sent et se sait grand par l'intelligence et la liberté. Il est essentiellement une force libre et raisonnable, disposant d'elle-même, jetée au milieu d'un système de force aveugle et fatale. Relevé à ses propres yeux par ce sentiment, l'homme se juge supérieur aux choses qui l'environnent. Il estime qu'elles n'ont d'autre prix que celui qu'il leur donne, parce qu'elles ne s'appartiennent pas à elles-mêmes. Il se reconnaît le droit de les occuper, de les appliquer à son usage, de changer leur forme, d'altérer leur arrangement naturel, d'en faire en un mot ce qui lui plaît, sans qu'aucun remords pénètre dans son âme. Ainsi, d'après cette explication, le besoin n'est pas le principe du droit. Sans doute l'homme s'empare des choses parce qu'il a besoin de les approprier pour vivre, mais autre chose est le mobile qui pousse l'homme à l'appropriation. Autre chose est le principe qui la consacre. Il ne suffit pas que j'aie besoin d'une chose pour avoir droit sur elle. Ce qui constitue le droit primitif, c'est la supériorité naturelle de ce qui est libre sur ce qui est fatal, de ce qui est intelligent, raisonnable, sur ce qui ne l'est pas. De là, le droit de tout homme sur toute chose non appropriée antérieurement. Considéré dans le rapport d'homme à l'homme, la propriété a également sa base dans le caractère sacré de la personnalité humaine, constitué éminemment par la liberté. enlever à un homme ce qu'il s'est assimilé par l'application de son intelligence et de sa libre activité, c'est attenter à l'inviolabilité de la personne, inviolabilité que nos codes reconnaissent et garantissent, et qui, loin d'être elle-même un effet des lois, est au contraire leur raison d'être. La plupart des jurisconsultes et de célèbres publicistes, M. Cousin dans Justice et Charité et dans la 7e leçon de l'histoire de la philosophie morale au XVIIIe siècle, tels que Montesquieu, Mirabeau, Bentham, donnent à la propriété pour origine la loi civile. Mais comme il faut nécessairement à la loi quelque chose de préexistant à quoi elle s'applique, généralement ils invoquent le droit du premier occupant. Or ce droit de premier occupant, pris en lui-même, ne signifie rien. Il ne mérite le nom de droit que grâce à l'une ou l'autre des conditions suivantes, et le plus ordinairement que grâce à leur réunion. La première, c'est la liberté et le respect qu'elle implique. La seconde, c'est le travail. La liberté d'abord, c'est ce qui donne à Diogène le droit de garder sa place au soleil. C'est ce qui constitue le droit du sauvage sur le morceau de bois qu'il a ramassé et pris à l'arbre. L'instinct parle ici avant toute réflexion. Il parle à l'enfant lui-même, mais la liberté qui se borne à une simple prise de possession ne fonde souvent qu'un droit vaga et insuffisant. D'après la théorie qui fonde uniquement la propriété sur la première occupation, celui qui le premier arriverait dans une contrée encore inoccupée aurait donc le droit de se l'approprier tout entière, et ceux qui viendraient ensuite seraient tenus de reconnaître en lui le légitime possesseur de toute l'étendue de terrain qu'il lui plairait de donner comme son domaine. À ce compte, les sauvages de l'Amérique auraient eu le droit de s'attribuer à tout jamais la propriété des forêts vierges qu'ils occupaient.
La liberté et le droit du premier occupant ont donc besoin d'une sanction nouvelle qui réalise le droit d'une manière moins méconnaissable. C'est le travail qui la leur donne.
Le travail, source de la propriété. Ce sera la gloire immortelle des économistes du dernier siècle, non seulement d'avoir assigné le travail pour origine à la propriété, ce que Locke avait déjà fait avant eux, mais d'avoir fondé sur ce grand principe l'économie politique tout entière. Les erreurs de l'école physiocratique ont disparu, mais le principe de cette généreuse école, qui mit au monde tant de vérités nouvelles, vivra autant que la science elle-même. En face du système despotique, quand l'État prétendait à la souveraineté de droit divin sur les personnes et sur la terre même du royaume, en face des rêveries niveleuses et tout aussi despotiques de Rousseau et de Mably, Quesnay et ses disciples, Mercier, Baudot, Lellerhoum, Dupont de Nemours, enfin Turgot, le plus grand de tous, posèrent avec fermeté la théorie véritablement démocratique du travail comme source de la propriété. Ils allèrent plus loin. Non seulement ils rapportèrent la propriété des choses au travail, mais ils rattachèrent le travail lui-même à la propriété imminente que l'homme a de ses facultés et de ses organes, c'est-à-dire à la liberté. Tout récemment, quand la propriété était si violemment attaquée par le socialisme, nous avons vu entrer en lice des publicistes illustres à plusieurs titres qui sont accourus pour la défendre. Eh bien, parmi tous les arguments de fond qu'ils invoquent, et dont ils savent tirer un parti d'ailleurs si heureux, quelquefois si neuf, il en est bien peu qui ne se retrouvent dans l'arsenal des physiocrates, lesquels avaient écrit non pour le besoin de la lutte, mais les yeux fixés dans leur calme méditation sur la vérité et sur le droit qui sont de tous les temps. Je crois inutile maintenant de montrer l'accord parfait des trois théories sur le droit de propriété, pour peu qu'on prenne la peine de les comparer et de les rapprocher en s'attachant au fond plus qu'à la forme. La liberté occupe les choses, mais cette appropriation ne se réalise pleinement que par le travail. Le travail n'est lui-même qu'une application suivie et régulière de la liberté humaine, c'est-à-dire de la force active et volontaire qui nous constitue. Il n'est qu'une occupation prolongée. Le travail rend la propriété sacrée, mais c'est le respect dû à la personne qui rend sacré le travail lui-même. Il s'ensuit que les trois théories sur l'origine de la propriété ne sont en réalité que diverses faces d'un même principe, à savoir la force active prenant possession d'abord de ses facultés et de ses organes corporels, ce qui est le premier mode de son exercice et la première appropriation concevable, puis s'imposant aux choses par l'occupation, ce qui est le second mode de son activité et la première forme visible de la propriété, puis enfin les faisant plus réellement siennes par le travail, ce qui est le troisième degré du même développement, degré infiniment plus énergique, plus appréciable dans ses effets, et d'une évidence pour ainsi dire palpable, qui fait prendre corps au droit, placé jusqu'à là dans une sphère trop métaphysique, pour ne pas donner lieu à des contestations nombreuses, soit théoriques, soit pratiques. Ce caractère, pour ainsi dire consubstantiel de la liberté, de la propriété et du travail, bien qu'il s'emprunte à des sources philosophiques, n'est au fond qu'une vérité de sens commun. La corrélation de ces idées est facile à saisir. Être propriétaire dans toute la force du terme, c'est être libre de posséder les choses et d'en disposer, de les échanger, de les donner et de les transmettre par héritage. Être libre, c'est avoir la propriété de soi-même et de ses facultés et de leur emploi, dès lors le libre choix et le libre exercice de son industrie. Liberté civile, propriété, liberté de l'industrie et du commerce sont autant d'idées qui s'appellent et se supposent les unes les autres. Leur solidarité est partout écrite. Tous les défenseurs de la propriété, dans ces derniers temps, l'ont mise en lumière. La propriété et la liberté sont si étroitement unies entre elles qu'elles ont toujours été reconnues et sacrifiées ensemble et dans les mêmes proportions. Ainsi, dans la plupart des États de l'Orient, où l'esclavage politique existe dans toute sa force, il n'y a pas d'autre propriétaire que le prince ou la caste dominante. Dans la Grèce antique, c'est l'État qui a un pouvoir souverain sur la propriété, comme sur la famille et sur l'individu. On voit les philosophes grecs parfaitement d'accord sur ce point avec les législateurs, Platon qui demande la communauté, Aristote qui préfère la propriété individuelle, reconnaissent tous deux à l'État le droit d'établir l'un ou l'autre de ces systèmes. À Rome, la souveraineté absolue sur les biens et les personnes passe dans la famille aux mains du père. Dans une foule de cas, la main de l'État dispose souverainement de la propriété. Le seigneur, sous la féodalité, le roi, sous la monarchie absolue, sont réputés propriétaires originaires de tout le domaine compris dans leur ressort. Louis XIV aimait nettement cette prétention. Les rois, peut-on lire dans son instruction au dauphin, sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés. La propriété est individuelle et non collective. Dans le livre ayant pour titre « Testament politique de Monsieur de Louvois », on lit ce qui suit. « Tous vos sujets, quels qu'ils soient, vous doivent leur personne, leur bien, leur sang, sans avoir droit de rien prétendre. En vous sacrifiant tout ce qu'ils ont, ils font leur devoir et ne vous donnent rien. » Puisque tout est à vous. En France, la liberté civile sous toutes ses formes, l'affranchissement de la propriété et la liberté du travail ont suivi un parallélisme parfait. C'est le même jour, et ce jour a été la plus grande date des temps modernes, que les redevances abusives pesant sur le sol, que les prohibitions à l'intérieur mises sur la circulation de ces produits, que les restrictions à la libre industrie représentées par les jurands des les maîtrises, et qu'enfin la plupart des gênes qui pesaient sur la pensée ont été abolis. Les défenseurs de la propriété qui, justement frappés de son immense utilité sociale, veulent qu'on s'en tienne à ce genre de preuves, demandent comment ceux qui se montrent moins timorés quant à la réalité du droit répondront aux sectes communistes et socialistes lorsqu'elles allèguent que le travail ne modifiant que la surface ne peut dès lors étendre ses droits sur le fond comme une propriété du genre humain. Assurément, les raisons tirées de l'utile pour justifier l'appropriation du fond ont bien de la force. Il est utile que le travailleur qui a fécondé le sol garde le fond aussi bien que la surface. Autrement, il usera du sol comme un possesseur précaire et pressé de jouir. Point de pensée d'avenir, point d'amélioration sérieuse dès lors, point de population nombreuse et suffisamment entretenue, point de civilisation ayant des racines profondes, soit morales, soit matérielles. Tous ces avantages ne peuvent venir que de la propriété durable et sont incompatibles avec la simple possession temporaire. C'est par la même raison qu'il est utile que la propriété soit individuelle et non collective. On en a la preuve dans les communautés religieuses du Moyen-Âge et de nos jours dans l'état fort imparfait des propriétés des communes. La propriété collective a pour inconvénient de ne pas stimuler suffisamment l'activité du propriétaire et de n'être pas transmissible à des possesseurs plus actifs, plus habiles, mieux fournis de capital et surtout plus désireux de s'enrichir. Il en est de même pour l'héritage. Quoi de plus aisé à justifier par l'utilité sociale? Tout le monde sait que l'héritage donne à l'activité du père de famille, à son sentiment de la responsabilité, à son esprit d'épargne, un immense ressort, et devient par là le principe de nouvelles richesses sociales qui n'auraient pas été créées sans lui et qui profitent à tous, même aux plus dénués. Tout le monde sait qu'il resserre le lien de la famille, l'empêche fréquemment de se dissoudre et tend à la perpétuer. Tout le monde sait enfin que l'héritage est seul en état de créer cette force sans laquelle il n'y a ni société stable, ni grand peuple. La tradition, puissance conservatrice, qu'il importe à un degré tout particulier de fortifier chez les nations modernes, si on ne veut courir le risque de les voir s'abîmer sous le flot mobile de la démocratie. Retrancher la propriété du fond, retrancher la propriété individuelle, retrancher l'héritage, obligé de songer aux étroites nécessités du moment, courbé sous le poids d'un travail matériel et pénible, n'ayant ni le temps ni le droit de songer à l'avenir, tous resteront abaissés au même niveau. Toutes les générations tourneront dans le même cercle d'ignorance et de misère. Les arts, les sciences, les lettres, ce noble luxe qui décore si magnifiquement la civilisation et qui contribue si puissamment à enrichir la société, n'auront pas le temps de naître ou seront abandonnés. L'industrie elle-même, celle qui répond aux premières nécessités de l'existence, s'accommode mal d'un pareil état. D'une part, elle ne peut se passer du développement des sciences, qui, cultivées d'abord avec des intéressements par de prétendus oisifs, se résolvent en applications de tout genre. D'une autre part, elle n'est possible qu'à l'aide d'une certaine concentration de capitaux, sans laquelle il n'y a ni une suffisante division du travail, ni un suffisant appât à l'esprit de perfectionnement. Il faut de riches capitalistes pour appliquer et par conséquent aussi pour susciter les découvertes. Sans la propriété permanente, avec toutes les conséquences que ce mot implique, l'industrie végétera misérablement dans la reproduction des mêmes formes imparfaites ou se consumera en essais infructueux. Ôter la propriété permanente en un mot, ôter à la civilisation avec ses fleurs les plus belles, ses fruits les plus savoureux, c'est substituer à la demeure de l'homme civilisé solidement assise, la tente de l'arabe éternellement vagabond. À Dieu ne plaise que nous cherchions à affirmer l'excellence de ces raisons tirées de l'utile, raison dont la force est faite pour frapper tous les esprits ouverts au sentiment de la réalité. Mais c'est précisément cette conformité admirable de la propriété avec l'utilité sociale qui me fait soupçonner sa conformité non moins parfaite avec le droit, et qui me pousse à en chercher les raisons dans l'harmonie préétablie de l'utile et du juste. Pourquoi accepter la défaite sur un point aussi essentiel que le droit et se contenter d'une victoire incomplète qu'on risque de compromettre en ne sachant pas la pousser jusqu'au bout? Pourquoi se résigner de gaieté de cœur à une de ces anomalies, à une de ces contradictions naturelles qui sont un véritable supplice pour les intelligences droites tant qu'elles n'ont pas réussi à les concilier et dont la trop facile admission dans l'ordre du monde et dans l'étude de la société constituerait, si l'on y faisait attention, un véritable matérialisme, un véritable athéisme scientifique. Prenez garde, dirais-je à mon tour, en me plaçant sur le terrain même, sur le terrain de la prudence à ceux qui se résignent volontiers à passer pour des usurpateurs, pourvu qu'on leur concède que cette usurpation a été bonne dans ses effets, prenez garde que ceux qui veulent s'emparer de vos biens n'en prennent texte contre vous d'une manière embarrassante, car enfin, eux aussi, et c'est là le titre même de la mission réformatrice qu'ils se donnent, eux aussi se flattent de justifier l'usurpation à force de bienfaits. Ils se croient même à cet égard beaucoup mieux en mesure que vous ne l'êtes. Ils ont en main des systèmes, des panacées. Ils ont la prétention de parer aux inconvénients que vous signalez et de les racheter, s'il en subsiste, par de plus précieux avantages. Si l'on retranche l'idée morale, le progrès indéfini justifie toutes les spoliations, et la propriété n'appartient plus qu'à ceux qui s'en croient les plus dignes. Entre vous et eux, entre les services rendus au passé et les services qu'ils prétendent rendre à l'avenir, il ne restera plus pour décider la question que la force. Voilà où conduit la défiance du droit. Tout sacrifice fait de ce côté, bien loin, comme l'on croit, de profiter à l'utile, lui porte les plus rudes atteintes.